Madame, Monsieur, bienvenue à l'écoute d'une heure pour convaincre. Cette première édition de votre émission se consacre à l'instauration des mairies de la ville en lieu et place des communes urbaines. Une des innovations majeures du Code général des collectivités territoriales décentralisées, on ne parlera plus du délégué du gouvernement, mais du maire de la ville. Accélération du processus de la décentralisation, la question préoccupe le Cameroun. Plus qu'une simple volonté politique, le transfert des compétences aux collectivités territoriales décentralisées en vue d'assurer leur autonomie est au centre des questions et des actions des pouvoirs publics ces dernières années. L'instauration des mairies de la ville en lieu et place des communautés urbaines témoigne de cette logique. Plus de détails avec Steve Feby.
C'est une nouvelle figure dans le paysage institutionnel des cités capitales au Cameroun. Le maire de la ville élu, qui remplace le délégué du gouvernement nommé, est plus qu'une simple figure titulaire. Il est la preuve d'un nouveau palier important franchi dans le processus de la décentralisation, puisque par son mode de désignation, à savoir l'élection, le maire de la ville est le résultat du choix de la base. L'aperçu de ses missions renseigne aussi à suffisance la volonté des pouvoirs publics à autonomiser les collectivités territoriales décentralisées pour le développement des villes camerounaises. Le premier magistrat municipal, au-delà de coordonner les actions des communes d'arrondissement et de poser les jalons d'un développement harmonieux et organisé des cités capitales, a aussi pour lot de mission de donner un visage plus reluisant à nos villes. Redevable vis-à-vis de ceux qui l'ont élu, il a l'obligation de résultats, condition sine qua non de sa prochaine réélection. Il est donc lié aux populations, puisque disposant d'un mandat électif, contrairement à son prédécesseur, le délégué du gouvernement, dont le bail ne tient qu'à la volonté du chef de l'État. À la tête de l'exécutif municipal de la ville, le maire de la ville doit aussi, dans ses actions, composer avec les grands conseillers, issus tant des différentes formations politiques que des communes d'arrondissement. C'est donc un acteur majeur dans la décentralisation et un bâtisseur du développement, le maire de la ville.
Steve, vous l'avez dit, le maire de la ville est un acteur majeur dans le processus de décentralisation et du développement de nos régions. Mais seulement, comment les populations de la ville de Maroua perçoivent-elles ce changement de dénomination, mais aussi ce mode de désignation? Est-ce qu'elles ont la volonté ou bien est-ce qu'elles ont cerné la volonté du chef de l'État par cet acte? Nous les avons rencontrées, écoutons quelques-uns.
Je pense qu'avec la nouvelle politique de gestion de la ville, nous parlons du maire de la ville au lieu de délégué du gouvernement. Cette initiative, pour ma part, je pense qu'elle est très bonne. Pourquoi? Parce que selon l'ancien régime, le délégué du gouvernement était nommé par le président de la République. Or, avec le maire de la ville, il est élu par la population. Ce qui fait que la population se sent un peu engagée et prise en considération dans la réalisation des différents projets. Et également, c'est aussi un moyen de pression sur le maire, puisqu'il sera élu par la population. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, nous ne voyons pas encore la différence, mais déjà l'initiative nous l'apprécions. Et nous attendons vraiment la réalisation des projets.
Maintenant, nous sommes libres de choisir même le super maire. Avant, c'était la nomination, mais maintenant, c'est le choix du peuple. On espère que ça va changer. C'est une très bonne idée du chef de l'État, Paul Biya.
Par rapport au changement qui a été apporté, c'est-à-dire nous passons de l'ancien système qui est celui des délégués et au système qu'on a aujourd'hui concernant les délégués régionaux, les maires de la ville et autres. L'ancien système, c'est vrai, il n'a pas vraiment apporté les résultats escomptés. Et s'il y a eu des changements, c'est parce qu'on souhaiterait aller plus loin, c'est-à-dire avoir des résultats positifs. Ce que nous attendons, c'est le résultat sur le terrain. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir des textes sur le transfert des compétences, sur le transfert de pouvoir. Il faudrait bien qu'on voie sur le terrain, c'est-à-dire des réalisations concrètes, de façon pratique, qu'est-ce que la décentralisation nous apporte au niveau des maires, au niveau des délégués régionaux, au niveau des communes. Que le travail qui a été fait avant au niveau national, qu'on voie ce travail se produire sur le plan des localités ou bien des mairies.
Ma conception relativement au texte de la décentralisation qui a provoqué un changement brut au niveau du délégué du gouvernement, que désormais on parle actuellement de maire de la ville. Ceci provient justement des textes de la décentralisation. Les textes sont clairs. Nous avons obtenu, n'est-ce pas, le processus effectif de la décentralisation et en 2020 avec donc l'arrivée des conseillers régionaux. Et...
Nous le disions en début d'émission, le docteur Salih Babani, le maire de la ville, est l'invité de ce premier numéro de Une heure pour convaincre. Il est donc dans ce studio. Bonjour docteur et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci Madame Nicole Massaï de me donner l'opportunité de préciser à vous et surtout à vos auditeurs, n'est-ce pas, ce qui a changé au niveau de la mairie de la ville. Déjà, le changement... se manifeste à travers trois ou quatre angles. Le premier angle, c'est lui-même de l'appellation. Le deuxième angle, c'est que, est le plus important, le maire de ville n'est plus nommé par décret présidentiel, mais il est élu. Il est élu par un collège de 105 conseillers municipaux qui constituent les 5 exécutifs municipaux d'arrondissement que compte la mairie de la ville. Donc, voici un deuxième changement qui est de taille, parce que le maire étant désormais élu, il répond directement de ses populations.
Oui, il y a une proximité.
Une proximité, et puis voilà, tout à fait. Et il a donc un bilan à produire devant ses électeurs qui constituent les populations de la ville.
Et par cet acte, que recherche exactement le président de la République?
La volonté du président de la République de vouloir rapprocher l'administration des administrés, de vouloir remettre à chaque région, à chaque fils et fille des régions camerounaises, la responsabilité de développer leur région, de développer, n'est-ce pas, leur ville, de développer leur commune. Cela a changé parce que ce code-là définit clairement et succinctement les compétences de chacune des collectivités locales territoriales décentralisées. Que ce soit la région, que ce soit la commune, que ce soit la mairie de ville, eh bien, toutes les responsabilités sont définies.
Docteur, vous l'avez dit, chaque organe a ses prérogatives. Du coup, on se demande s'il y a le maire de la ville, que fait le ministère des Travaux publics, le MINEPAT, le conseil régional et les communes d'arrondissement?
Tout le mérite qui revient au chef de l'État, notre président, n'est-ce pas, d'avoir défini de manière claire, nette et précise les responsabilités des uns et des autres. Vous avez parlé des travaux publics, c'est un ministère sectoriel. Vous avez parlé du ministère de la décentralisation, c'en est un autre. Vous avez parlé des mairies de ville, ce sont des collectivités locales territoriales décentralisées qui trouve dans le code général des collectivités territoriales, justement, qui sont définies par la loi 2019-024 du 24 décembre 2019, définit clairement qu'est-ce que c'est qu'une mairie d'arrondissement, qu'est-ce que c'est qu'une commune, qu'est-ce que c'est qu'une mairie de ville, qu'est-ce que c'est qu'un conseil régional.
Et qu'est-ce qui est fait pour que l'un n'empiète pas sur le travail de l'autre?
Très bien. Pour ce qui concerne la mairie de la ville et les communes d'arrondissement, nous avons ce qu'on a appelé un cadre de concertation où les maires de communes d'arrondissement se retrouvent avec le maire de la ville pour parler des questions de la ville, pour parler des questions du développement de la ville. Alors là, passent les grandes questions. Les routes, l'assiette fiscale, la salubrité, l'hygiène, les actes administratifs d'urbanisme. Tout ce que vous savez passe par là pour qu'il n'y ait pas chevauchement, justement. Pour qu'il y ait convergence de vues sur un certain nombre de questions liées à la ville.
Tout à fait. Parlons à présent de votre bilan après pratiquement un an. En matière d'axes routiers, qu'est-ce qui a été fait concrètement?
Très bien. Il fallait donc poser un diagnostic. Un diagnostic qui puisse nous donner la situation exacte à notre prise de fonction. Chose qui a été faite et surtout avec l'élection ou l'éligibilité, n'est-ce pas, que le président de la République a fait montre pour la ville de Maroua en l'élisant, n'est-ce pas, comme ville et bénéficiaire de la composante 2 du CD2. Nous en avions bénéficié. Donc, il y a cette composante-là, Nicole. Ce sont des projets sur un an d'investissement que la mairie elle-même porte. Plus les projets du CDD, vous comprenez que donnez simplement un peu de temps et vous verrez Maroua sous un autre visage.
Prenons le cas de Kakatare. Qu'est-ce qui coince? On a cru à un certain moment que les travaux devraient être exécutés, mais jusque-là, rien. L'attente semble être très longue.
Rien ne coince dans Kakatare. Tous les blocages sont levés désormais. Le gouvernement est conscient de ce que le projet avait été commencé par notre génie militaire et que donc maintenant, il faille que nous évaluions. C'est un travail d'évaluation, de décompte du travail réalisé jusqu'ici pour qu'on puisse embrayer sur un autre afin que la route reprenne du côté de Kakatare. Cette préoccupation est majeure pour nous. Pour nous, parce que nous sommes...
La population en parle d'ailleurs.
D'accord, tout à fait. Nous sommes en phase avec nos populations. Nous sommes en phase et avec l'appui des autorités administratives au haut niveau, au plus haut niveau de la région, du département, nous avons conçu, sous la supervision, sous la coordination de M. le préfet du département du Diamaré, qui n'a de cesse de nous d'attirer notre attention sur l'état des routes, nous avons conçu un document que nous avons transmis à M. le gouverneur de la région, qui à son tour a saisi l'autorité compétente du Minepart. Nous attendons juste la réaction et nous demandons un peu de patience aux populations.
D'accord. Monsieur le maire, qu'en est-il des autres domaines, notamment l'éducation?
Vous savez, je voudrais inviter les populations de la ville de Maroua à venir consulter le Code général des collectivités territoriales décentralisées. Cette année, sur 13 écoles primaires sélectionnées par la mairie de la ville, nous avons mis à disposition 895 tables bancs. Chaque table banc coûte 45 000. Nous sommes partis pour 25 ans de garantie pour un table banc. 25, pas 2 mois, pas 3, comme ça se fait ailleurs.
Table banc 45 000.
Nous avons testé sur la montagne de Makabaï le test.
Si
ça se fend, mais si ça se fend un peu, on met de côté. Je mets quiconque à défi d'aller voir dans les 13 écoles primaires des 3 communes d'arrondissement de Maroua, nous avons mis à disposition 895 table bancs.
Docteur Sali Babani, parlons d'autre chose. À présent, la saison pluvieuse. Quel est le défi à relever quand on sait que cette saison donne du tournis aux populations de l'extrême nord?
Le défi est celui de l'alerte maximale. Là, la mairie de la ville est en alerte maximale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde est mobilisé, jusqu'au niveau de l'agent de ménage. Tout le monde. C'est une ville de plaine, ceinturée par des montagnes et des eaux qui nous viennent, n'est-ce pas, du Mayo Chanaga. Ce qui fait que, tu comprendras avec moi, que toutes les eaux qui se déversent n'ont pas de point de chute. Malgré que nous ayons construit des canals par-ci et par-là, pour pouvoir, n'est-ce pas, drainer ces eaux-là vers les déversoirs à l'est de la ville, il reste toutefois de poches d'inquiétude que nous tenons. Nous les tenons malgré les modestes moyens que nous avons.
Docteur, j'ai envie de dire que le véritable problème se situe au niveau de la pérennisation des ouvrages réalisés. Les mêmes problèmes surviennent pendant les mêmes périodes. Qu'est-ce qui est fait pour éviter le retour à la case départ?
les carrières de sable doivent être placées hors de du périmètre urbain et périurbain. Les populations doivent désormais s'apprêter à accéder au sable à un prix un peu plus élevé. Parce que ces carrières de sable installées, vous savez, Maroua est comme New York. Il y a le maillot Tchanaga, qu'on appelle maillot Fergo, selon les endroits qu'il traverse, ou Doumou à Bogo. Il y a le maillot Zileng. Et puis il y a le maillot Tapadam. Il y en a trois qui traversent la ville, de part et d'autre. Alors, de temps en temps, il y a convergence, il y a confluence entre les fleuves, entre les rivières, mais il y en a trois. C'est ça aussi qui fait le charme de la ville. Mais alors, ces quantités d'eau qui sont, n'est-ce pas, drainées par ces différentes rivières, les trop pleins souvent, et très souvent, n'est-ce pas, rongent les berges. Au point où aujourd'hui, le maire de la ville que je suis se trouve être inquiété parce que les changements climatiques, les réchauffements climatiques, a déréglé le fonctionnement, n'est-ce pas, régulier, le fonctionnement qu'on avait connu jusqu'ici de la saison de pluie chez nous.
Oui.
Et ce qui fait que c'est l'impact direct de ce réchauffement climatique-là, n'est-ce pas, qui détruit à une vitesse vertigineuse nos différentes berges.
Oui.
L'État du Cameroun, que nous ne cessons de remercier, a pris le taureau par le corne sur une zone pilote. Le pont rouge, de part et d'autre du pont rouge. Et puis, allant, n'est-ce pas, vers le pont cassé de Palard. Si vous voyez, le travail n'est pas arrivé à son terme, mais ce qui est déjà fait en termes d'enrochement montre à suffisance que c'est du sérieux. Et que si cela est fait, nous allons certainement contrôler ces eaux. Mais, dans le cadre du projet CD2, des études ont été menées pour le redressement de ces cours d'eau, du lit de ces cours d'eau-là, qui ont suffisamment rongé. Il faut donc faire, n'est-ce pas, des digues profondes pour recalibrer le passage des eaux après que nous ayons posé un bassin de rétention en amont de la ville de Maroua. Et je vous assure que la réalisation de ces deux projets feront de Maroua, n'est-ce pas, la deuxième capitale du Cameroun.
Docteur, la réalisation de ces projets, c'est pour quand? On sait bien, c'est bien beau d'avoir des projets, mais les réaliser, c'est encore mieux.
Très bien. C'est dans le court terme. On ne parle pas du long terme. Nous recherchons les financements à ce moment. Les études d'abord. Parce que, vous savez, l'universitaire que nous sommes, fait en sorte que nous n'attaquons pas les problèmes n'importe comment. On passe par un diagnostic. On regarde quelle méthode appliquer, quelles sont les conséquences de la méthode appliquée, quels sont les objectifs en appliquant une telle méthode qu'on recherche, et quels sont les résultats. Les résultats sont-ils susceptibles de créer d'autres problèmes, ou bien les résultats seront satisfaisants au point où nous pouvons donc considérer que le problème est définitivement solutionné. Voilà les détenteurs d'une méthode. Et comme cela, Nous l'appliquons stricto sensus pour pouvoir, n'est-ce pas, tenir effectivement un diagnostic réel et pour un solutionnement définitif du problème. Nicole, ce que je voudrais vous dire également, c'est que si nous réussissons à réaliser ce travail-là, je vous assure que, de manière définitive, les problèmes d'inondation dans la ville de Maroua seront calés.
Ok, pour mettre un terme à cet entretien, est-ce que vous pouvez revenir amplement sur le rôle de tout un chacun dans le processus?
Nicole, en réalité, il n'y a pas confusion à faire. La confusion relève de ce que personne ne voudrait savoir qu'est-ce qui se passe. J'ai invité tout à l'heure les populations de la ville de Maroua à venir consulter le code général des collectivités territoriales décentralisées. Si ce code avait été consulté par ces populations, on ne serait pas en train de demander qu'est-ce qu'on attend de tel organe, qu'est-ce qu'on attend de tel autre organe. Mais cela dit, il est du devoir de la mairie de la ville de vulgariser le code général. Dès qu'il est vulgarisé, je suis convaincu que le problème ne se poserait plus.
Nous retenons donc, pour mieux cerner le rôle de chaque acteur impliqué dans l'urbanisation de notre région, on se réfère tout simplement au code général des collectivités territoriales décentralisées.
Docteur Salih Babane, vous êtes le maire de la ville de Nara.
C'est exact.
Merci d'avoir répondu.
Je vous en prie, Nicole, je vous en prie.
Chers auditeurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce premier numéro d'une heure pour convaincre. Il était question de tabler sur les compétences du maire de la ville récemment instituée par le président de la République. Pour répondre à nos questions, le maire de la ville de Maroua, le docteur Salih Babane, était notre invité. Merci d'avoir été des nôtres et restez scotchés au programme de Radio Océan.